France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Alors que sa candidate a rassemblé moins de 5% des suffrages exprimés à la présidentielle, quel avenir pour la droite, le parti Les Républicains? Les législatives dans un mois se préparent, il y aura des candidats LR ou UDI et Nouveau Centre dans quasiment toutes les circonscriptions. Mais c'est bien de nouvelles années d'opposition que s'apprête à vivre le parti héritier de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Pèsera-t-il autant à l'Assemblée et dans le débat public que lors du premier quinquennat? Ou bien la droite républicaine est-elle vouée à se réduire comme peau de chagrin entre un centre macroniste et une droite identitaire? LR, c'est aujourd'hui une centaine de députés, premier groupe d'opposition. Les premiers sondages évaluent à 50 à 70 sièges. Le futur groupe, ce serait 2 à 3 fois moins que la nouvelle alliance à gauche. Ce ne sont évidemment que des premiers sondages. Le secrétaire général des LR est aujourd'hui notre invité. Son discours est clair, net et radical. Il faut tout reconstruire. Bonjour Aurélien Pradier.
Bonjour.
01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir pour que les auditeurs vous posent toutes leurs questions. Vous êtes clair et net, je le disais, vous dites c'est aujourd'hui notre projet politique qui nous fait échouer.
Oui, ce que je dis, je pense que tous les Français le comprennent et le partagent avec moi. Notre famille politique, la droite républicaine, a échoué depuis de nombreuses années. Depuis le deuxième épisode de Nicolas Sarkozy, nous allons d'échecs électoraux en échecs électoraux. Alors on peut considérer que c'est les Français qui ne nous comprennent pas. On peut aussi considérer que nous ne sommes plus en adéquation avec ce que les Français peuvent attendre d'une grande famille politique comme la nôtre. Donc j'ai pas le sentiment de dire quelque chose d'extraordinaire en disant qu'après résultats aussi mauvais aux élections présidentielles, il faut tout rebâtir et pouvoir s'adresser à tous les Français. Ça fait longtemps que la droite française ne parle plus aux Français.
Alors qu'est-ce qui ne va pas dans ce projet de politique? D'où vient le décalage avec les Français?
D'abord, c'est pas seulement lié à la droite française. Politique, pour moi, c'est autant une affaire de comportement que de projet politique. Et peut-être un mot du comportement d'abord. La droite française, elle disparaîtra le jour où elle voudra se vendre aux uns et aux autres. Et c'est vrai que le spectacle auquel nous assistons aujourd'hui, à droite comme à gauche d'ailleurs, où c'est sauf qui peut pour tenter de sauver un poste, les convictions sont devenues quelque chose de secondaire. Moi, je crois que la droite française, elle doit aussi retrouver un code d'honneur dans son comportement, dans son attitude. Je sais que ça paraît un peu ringard de dire ça, mais pour moi, la politique, c'est d'abord une affaire de comportement, de fidélité. La période des girouettes, pour moi, ne sert personne, aucun parti politique et pas la démocratie. Pour ce qui est du projet, je crois à une droite populaire, mais là encore, je ne suis pas le seul à le dire. Comment aujourd'hui la droite française relève le défi des salaires, le défi de la dignité pour ceux qui travaillent dur et qui ne sont pas récompensés? Comment on relève le défi de l'écologie, de l'environnement, de la justice sociale? Moi, je pense que la droite française, elle a un chemin qui est celui de la dignité et de la justice sociale. C'est peut-être un peu différent de ce qu'on entend depuis quelques temps.
Droite sociale plutôt qu'identitaire. Question Gaston au standard à ce sujet. Bonjour Gaston.
Allô, oui, Gaston, oui, j'habite Orléans, mais là, je suis sur la côte catalane. Oui. Donc, j'aurais une question à poser. Vous m'entendez bien?
Oui, très bien, parfaitement.
Oui, bah, je vous remercie. Bonjour à toute l'équipe et merci pour la qualité de certaines de vos émissions.
Merci.
Oui, ma question, vous parlez de, à votre invité, vous parlez de droite populaire, de droite sociale, mais est-ce que ce n'est pas Monsieur Macron qui serait, par ses promesses, le meilleur pour cette droite sociale, si on remet des guillemets, sans vouloir être méchant, est-ce que c'est pas Monsieur Macron finalement qui serait le meilleur?
Aurélien Pradier, merci pour cette question.
C'est une bonne question, monsieur. Moi, j'ai siégé à l'Assemblée nationale depuis 5 ans. J'ai constaté à quel point l'ADN politique du président de la République était le mépris social. Je pèse mes mots en le disant. Prenons un exemple très concret. Je me suis battu avec plusieurs de mes collègues à l'Assemblée pour déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Ça paraît être un sujet très technique, mais c'est un vrai sujet de justice sociale pour des millions de nos concitoyens. Ça dit beaucoup de la vision de la société. Eh bien, durant 5 ans, le président de la République et son gouvernement se sont opposés à cette mesure de justice. Je crois en réalité que ce qui nous différencie...
Même s'ils l'ont acté là en toute fin de campagne, Emmanuel Macron a dit qu'il allait bouger là-dessus. Hein.
Oui, pendant 5 ans, il a bloqué, et en période électorale, il a dit qu'il allait bouger. Vous conviendrez avec moi tout de même que je crois plus aux actes qu'aux promesses électorales. Mais la vision même de la société, j'ai pas besoin de la détailler. Lorsqu'Emmanuel Macron a eu ces mots de mépris à l'égard de nos concitoyens, c'était pas seulement des maladresses, c'était aussi une manière de les considérer, ou plutôt de les déconsidérer. Et je pense que le cœur de la politique, le cœur de la droite française, dans son ADN politique, c'est d'être attentif aux plus humbles de nos concitoyens, aux plus modestes, à ceux qui travaillent dur, je le dit et qui aujourd'hui ne trouve pas la dignité nécessaire. Ça peut paraître être un débat théorique tout cela, mais en fait je pense que c'est un débat absolument fondamental. La perte de dignité pour des millions de nos concitoyens. L'injustice à tous les étages de notre pays est un poison absolu. Je ne crois pas à la gauche misérabiliste, je ne crois pas à Emmanuel Macron dans sa capacité à recoller les morceaux du pays, et je pense que nous avons un chemin à droite.
Alors, un exemple concret, le pouvoir d'achat, lorsqu'on parle de droite sociale, on est pile dedans, me semble-t-il. En quoi auriez-vous une approche différente de celle d'Emmanuel Macron et du gouvernement, qui a dépensé 25 milliards pour soutenir le pouvoir d'achat, le blocage des prix de l'énergie, le chèque inflation, bientôt le chèque alimentation? Que feriez-vous de différent? Quelle approche différente?
Le sujet fondamental derrière le pouvoir d'achat, c'est la question du salaire. Vous savez, quand on parle de pouvoir d'achat, souvent, on évite d'aller au fond du sujet. Le fond du sujet, c'est le salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le salaire d'une aide-soignante est à la hauteur du travail qu'elle fait? Pas du tout. Et si on veut demain redonner aux aides-soignantes un vrai salaire, il faut revoir totalement le système de financement de notre sécurité sociale, notamment. Lorsque, aujourd'hui, on voit des jeunes qui travaillent pour des sociétés internationales qui livrent des sushis à 2h du matin pour un salaire de misère, est-ce que c'est la vision que la droite française a du travail? Pas du tout. Moi, je crois qu'il faut refonder les salaires. Je sais que c'est un chantier extrêmement ambitieux. Mais si la politique n'est pas là pour relever des chantiers ambitieux, elle ne sert à rien.
Ça veut dire quoi, refonder les salaires, Aurélien Pradier?
Ça veut dire les rendre plus justes, ça veut dire comment retravailler sur la participation des salariés, non seulement au salaire, mais à la décision de l'entreprise. Et c'est pas du bricolage qu'il faut. Comment, dans une société qui gagne de l'argent, les salariés peuvent aussi bénéficier des revenus gagnés par la société? Comment est-ce que dans des sociétés totalement ubérisées, on n'exploite pas les salariés? Tout ça, ce sont des sujets qui sont pas des sujets de gauche, ce sont des sujets de droite, parce que ils relèvent de la justice, du mérite, du travail, du métier, de l'effort que chacun peut produire pour être reconnu ensuite.
Vous êtes au téléphone et vous êtes en train de bouger. Il y a un peu d'écho par rapport au début de notre entretien. Si vous pouvez retrouver un endroit où il y a moins d'écho, ce serait parfait. On va écouter la question d'Alain en attendant. Bonjour Alain.
Oui, bonjour. Ma question, elle est apolitique. Considérez la façon actuelle. Quelle sera votre position sur la dette française qui va devenir très coûteuse, considérée l'inflation? Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agence France Trésor émet environ à moyen terme entre 10 et 15 milliards par mois de la dette. Ceci n'est plus possible. Donc, en clair, allez-vous augmenter la CSG ou la TVA, et à quelle échéance?
Merci pour votre question. Aurélien Pradier, la dette, voilà un sujet de droite.
C'est un sujet politique. Et je crois que d'ailleurs on ne l'aborde que sous un aspect technique, alors que c'est d'abord un sujet éminemment politique. D'abord, la dette, il ne faut pas confondre la dette utile au pays et la dette inutile au pays. Il se trouve que les mois passés, et même avant même la crise sanitaire, Emmanuel Macron a fait des chèques liés au fonctionnement du pays sans jamais réformer ce qui devait l'être. Le devoir de la droite française, c'est d'économiser de l'argent là où c'est utile, là où c'est nécessaire. En revanche, je n'ai aucun problème pour dire que la dette qui consisterait demain à investir dans nos petites entreprises, à investir dans notre école, à investir dans notre hôpital, est une dette utile au pays. Et ça, c'est un débat éminemment politique, y compris ce que je vous dis là. À droite, pendant des années, on a considéré qu'il fallait réduire les dépenses sans se demander celles qui permettaient de donner un avenir au pays et celles qui ne le permettaient pas. Que demain, dans notre dette nationale, nous investissions pour la recherche autour du cancer, par exemple. Voilà un vrai sujet politique, éminemment politique. Et cette dette-là, je considère que ce n'est pas une dette inutile, c'est une dette productive. Le message que j'ai là, c'est un message bassement gaulliste, simplement gaulliste, qui n'est pas un message comptable, parce que je pense que le message comptable, il n'a pas de sens.
Mais ce que disait notre auditeur, c'est que les taux d'intérêt vont remonter, la dette, on l'emprunte sur les marchés financiers, elle va donc coûter de plus en plus cher. Au fond, où faites-vous les économies? Parce qu'il faut aussi faire des économies.
La dette n'est pas seulement empruntée sur les marchés financiers, la Banque Centrale Européenne aujourd'hui a un rôle absolument stratégique à jouer. La Banque Centrale Européenne est un outil politique avant d'être un outil, à mon sens, financier ou comptable. Donc on doit avoir cette discussion technique sur le stock de dette, notamment produit durant la période Covid. Qu'en faisons-nous? Comment nous l'étalons? Est-ce qu'on doit réfléchir à une dette perpétuelle pour ne pas grever notre capacité d'investissement? Ça, c'est un débat absolument politique. Pour le reste, il y a aujourd'hui dans notre pays des dépenses qui sont inutiles. On parlait de dépenses sociales tout à l'heure. Il y a des sujets sur lesquels on investit, on dépense inutilement des mesures de soutien social. Et tout
par
un
exemple,
tas de... par exemple dans les aides sociales au quotidien, je le vois comme beaucoup de nos concitoyens peuvent le voir, il y a des dispositifs d'aide qui ne marchent pas, qui bénéficient toujours aux mêmes inutilement, et je considère qu'on aurait d'autres outils qui permettraient de bien mieux faire les choses. Et je vous parlais tout à l'heure de l'hôpital et de l'école, pour moi ce sont des sujets stratégiques sur lesquels il n'est pas question de faire de coupes sombres.
À propos de dette, monsieur le secrétaire général des LR, où en est l'opération remboursement des frais de campagne et la collecte pour cela chez LR?
La collecte de Valérie Pécresse, je ne la tiens pas tous les jours en ligne de mire. Je sais que les choses ont bien avancé et que notre famille politique, notre parti, viendra en soutien parce que notre situation financière le permettait. Si votre question est de savoir si nous sommes matériellement en danger, ce n'est pas le cas parce que nous avions fait des efforts de gestion depuis plusieurs années. Et c'est un point important parce que dans une démocratie, une famille politique, elle a aussi besoin de moyens pour fonctionner. Ce sera toujours le cas demain.
Et ma question, c'est aussi sur les moyens de faire campagne pour les candidats dans les circonscriptions. 5 000 euros, pas plus, a-t-on pu lire dans la presse. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Ça fait peu, 5 000 euros, pour faire campagne aux législatives.
Notre famille politique n'a jamais attribué des sommes extravagantes aux candidats. Je peux vous dire, et je le vois au quotidien, on accompagne tous les candidats. Parce que c'est pas simple. Je peux l'assurer que même quand vous êtes député sortant, c'est pas simple de financer votre campagne électorale pour aller convaincre les électeurs. Et donc, on accompagne chacun des candidats. Aucun candidat Les Républicains ne sera en situation de ne pas pouvoir mener campagne. À chaque fois, on trouve une solution. C'est aussi notre boulot de famille politique.
Vous envisagez un groupe LR de combien de députés?
Écoutez, moi, je ne suis pas un adepte du PMU et du tiercier, donc je ne sais pas.
Même un vendredi 13.
Même un vendredi 13. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que sur le terrain, j'entends, et je le vois moi dans mon département du Lot, des électeurs de droite et de gauche nous dire « on a besoin à l'Assemblée nationale de députés indépendants, libres, qui puissent nous défendre ». Et je pense que les Républicains, nous avons fait les preuves que nous savions à l'Assemblée nationale défendre les Françaises et les Français.
Est-ce que vous serez aux côtés du gouvernement pour réformer les retraites, repousser l'âge légal de départ à la retraite?
La question ne se pose pas comme ça. Moi, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le texte de réforme des retraites.
Oh bah, vous savez que le projet, c'est 64, voire 65 ans pour l'âge légal.
Eh bien, nous aurons un débat. Et s'il y a des points d'accord qui permettent de faire avancer les choses, nous les soutiendrons. Et s'il y a des points de désaccord, vous pouvez compter sur moi pour l'exprimer. Sur la réforme des retraites, ma conviction profonde est qu'on prend le sujet par le mauvais bout. La question, ce n'est pas l'âge de départ à la retraite. La question, c'est la pénibilité. Et je considère que nous devrions demain travailler à un régime universel de pénibilité. Lorsque, comme moi, vous êtes député à 70 ans, je ne serai pas physiquement cassé, je le sais. En revanche, lorsque vous êtes un artisan, à 70 ans, vous êtes cassé. C'est ça la justice. Ce n'est pas avoir une vision mécanique des choses. C'est ce que je défendrai avec d'autres collègues à l'Assemblée nationale.
Est-ce que vous vous sentez isolé dans votre volonté de ligne sociale pour la droite et pas de ligne identitaire? Après tout, les primaires ont montré que la partie pro-identitaire, disons-le comme ça, chez les LR était importante, derrière Éric Ciotti. Est-ce que vous vous sentez isolé, Aurélien Pradier?
Quand on a des convictions, on ne se sent jamais isolé.
Oui, ça, c'est pas une réponse.
Si, c'est une réponse, figurez-vous. Parce que moi, je ne suis pas en train de faire des petits calculs en me demandant si je me place bien. Si
non, mais on ne fait pas de la politique tout seul.
Je vous dis,
on ne fait pas de la politique, on peut tenir un discours, mais il faut rassembler autour de soi. Est-ce que vous vous sentez isolé?
Vous avez raison, mais je ne me sens pas du tout isolé, d'abord parce que j'ai des convictions, et pardon de vous dire que ça commence par là, et ensuite parce que je vois dans ma famille politique, notamment à l'occasion de la désignation de notre candidate à la présidentielle, que la ligne que vous évoquez n'est pas majoritaire, et je vois autour de moi des femmes et des hommes de toute génération nous dire « il est temps de renouer avec une droite populaire ». Et ce travail-là, je ne le ferai pas seul, c'est aussi ma mission, non seulement d'avoir des convictions auxquelles je crois, avec sincérité. Et la sincérité, vous savez, ça permet d'embarquer beaucoup de monde autour de soi.
Et vous êtes toujours attaché à votre mouvement? Vous n'étiez pas au Conseil national samedi dernier?
Je n'étais pas au Conseil national samedi dernier parce que j'étais dans ma circonscription. Et vous comprendrez que le moment est important pour être aussi dans nos territoires. Quant à l'attachement à ma famille politique, il est absolument indéfectible parce que je crois à une valeur humaine et politique qui est la fidélité. Et je n'en démordrai pas.
Merci Aurélien Pradier. Dans votre circonscription, parce que vous êtes candidat aux législatives, mais vous étiez bien invité en tant que secrétaire général des Républicains, pour des questions de temps de parole, on n'a pas évoqué votre circonscription en détail. 13h45. France Inter.